5. Une fois qu'ils furent de retour dans le dogan, Roland replaça Susanna sur la chaise de bureau à roulettes et la poussa dedans jusqu'au premier escalier, tandis qu'elle tenait sur ses genoux leur Guna et le sac d'Oriza. Arrivé aux escaliers, le pistolero flanqua un coup de pied dans la chaise, la faisant basculer dans le vide, et reprit Susanna en appui sur sa hanche. Ils grimacèrent tous deux en entendant le fracas de la chaise qui culbutait jusqu'en bas. « C'est terminé avec ce truc, » dit-elle quand le brouhaha cessa enfin. « Tu peux aussi bien la laisser là, parce qu'il y a peu de chances qu'elle resserve.
On verra bien, » dit Roland en commençant à descendre les marches. « Tu auras peut-être des surprises. »«
Ça va pas mâcher. C'est de la mettre, ton tuc, et on le sait tous les deux. »
lança Détta. Oté lâcha un aboiement bref et catégorique, comme pour dire « ça, c'est bien vrai ». 6. La chaise survécut bel et bien à la chute, et à la suivante aussi. Mais lorsque Roland s'accroupit pour examiner cette pauvre chose cabossée après sa troisième cascade, extrêmement longue celle-là, il constata que l'une des roulettes était méchamment voilée. Ce qui lui rappela l'état dans lequel ils avaient retrouvé le fauteuil abandonné de Susanna après la bataille des loups sur la route de l'Est.
« Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit ? » demanda-t-elle en jacassant. « Je crois bien que l'heure est venue de trimballer la péniche, Roland. »
Il lui adressa un regard en coin.
« Tu peux faire partir d'état. »
Elle le regarda à son tour, surprise, puis fit un effort de mémoire pour se repasser sa dernière réplique. Elle rougit.
« Oui, » dit-elle d'une toute petite voix. « Je dis grand pardon, Roland. »
Il la prit dans ses bras et l'installa dans le harnais. Puis ils reprirent leur chemin. Le décor avait beau ne pas être riant sous le dogan, il était même à donner la chair de poule. Susanna était heureuse de quitter Fédic, parce que ça signifiait qu'il laissait aussi derrière eux tout le reste. Led, les Cala, Tonfoudre, Al Ghul, Siento, New York et le Maine occidental aussi. Le château du Roi Rouge les attendait, mais elle ne pensait pas qu'ils aient beaucoup à s'en inquiéter, parce que son hôte, le plus remarquable, était devenu fou et avait fiché le camp vers la Tour Sombre. Tout l'accessoire était en train de s'évanouir peu à peu. Ils se rapprochaient de l'issue de leur long périple, et c'était la seule chose qui comptait vraiment désormais. C'était une bonne chose. Et si elle devait tomber en poursuivant l'obsession de Roland, eh bien, s'il n'y avait que les ténèbres de l'autre côté de l'existence, comme elle l'avait cru pendant la majorité de sa vie d'adulte, alors rien n'était perdu. Tant qu'il ne s'agissait pas de ténèbres Vaadash remplies de monstres rampants. Et puis, peut-être qu'il y avait une vie après la mort, un paradis, la réincarnation, peut-être même la résurrection dans la clairière au bout du sentier. Elle aimait bien cette dernière hypothèse, et elle avait vu assez de choses extraordinaires pour la croire plausible. Peut-être que Eddie et Jack l'attendraient là-bas, bien emmitouflés avec les premiers flocons de neige s'accrochant à leurs sourcils. Monsieur Joyeux et Monsieur Noël qui lui offriraient un bon chocolat chaud. Mitchlag. Un chocolat chaud à Central Park. Quel intérêt avait donc la Tour Sombre comparée à ça? 7. Ils traversèrent la rotonde avec ses portes menant partout et finirent par déboucher sur le large passage avec l'inscription disant « Montrez passe orange seulement, passe bleu non valide ». Un peu plus bas, à la lueur d'un des rares tubes fluorescents encore en état de marche et près du mocassin en caoutchouc abandonné, ils aperçurent un message imprimé sur le mur carrelé et firent un détour pour le déchiffrer. Roland, Susanna, nous sommes en route. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous ne vous oublierons jamais. Et sous le texte, ils avaient signé de leur nom Fred Worthington, Danny Rostoff,
Ted Brottigan et Dinky Earnshaw. Sous les noms apparaissaient deux lignes supplémentaires, écrites d'une autre main. Susanna se dit que c'était l'écriture de Ted, et elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Nous partons en quête d'un monde meilleur. Puissiez-vous en trouver un, vous aussi ?»«
Que Dieu les aime, »
dit Susanna d'une voix rauque.
« Que Dieu les aime et les protège tous. »
« Tais-je tous ?»
reprit une petite voix plutôt timide au pied de Roland. Ils baissèrent les yeux.
« On a décidé de se remettre à parler, trésor ?»
demanda Susanna. Mais cette fois-ci, Otte ne répondit rien. Et ils ne devaient plus reparler avant des semaines. 8. Ils se perdirent à deux reprises. Otte retrouva le chemin à travers le labyrinthe de tunnels et de passages, certains balayés par des courants d'air lointains, d'autres agités de sons vivants, de plus en plus proches et menaçants. Et Susanna récupéra même l'itinéraire d'elle-même en repérant l'emballage d'une barre chocolatée laissée par Danny. L'algule était bien approvisionnée en friandises, et la petite en avait emporté des tas. Mais pas une seule tenue de rechange, avait dit Susanna en riant et en secouant la tête. Arrivée en face d'une vieille porte en bois de fer qui rappela à Roland celle qu'il avait vue sur la plage, ils entendirent un bruit déplaisant de mastication. Susanna essaya d'imaginer quel genre de créature pouvait faire ce genre de bruit et ne pensa à rien d'autre qu'une bouche géante remplie de crocs jaunâtres, striés de crasse. Sur la porte apparaissait un symbole indéchiffrable. Le simple fait de le regarder mit Susanna mal à l'aise.
« Tu sais ce que ça dit ?»
demanda-t-elle. Roland, bien que maîtrisant couramment une petite dizaine de langues et ayant des notions dans au moins le double, secoua la tête. Susanna se sentit soulagée. Elle avait dans l'idée que, si on connaissait la signification de ce symbole, on ne pouvait pas s'empêcher de le dire. Que peut-être même, il fallait le dire. Et qu'alors la porte s'ouvrirait. Est-ce qu'on aurait envie de fuir en voyant la chose produisant ce bruit de l'autre côté? Probablement. Mais pourrait-on seulement fuir? Peut-être pas. Peu après avoir dépassé cette porte, ils descendirent à nouveau un escalier, mais plus court celui-là.
J'imagine que j'ai oublié celui-ci en t'en parlant hier, mais à présent je me le rappelle,
dit-elle en montrant du doigt la contre-marche, recouverte d'une couche de poussière striée de marques.
Regarde, ce sont nos traces. Fred m'a porté à la descente et Dinky pour remonter. On y est presque maintenant, Roland, je te le promets.
Mais elle se perdit une nouvelle fois dans le dédale de passages divergents au pied des escaliers. Et c'est alors qu'Otte trancha, s'engageant en trottinant dans un passage mal éclairé aux allures de tunnel, dans lequel le pistolero dut marcher courbé, Susanna accrochée à son cou.
« Je ne sais pas, »
fit Susanna lorsque Otte déboula dans un couloir illuminé. « Enfin !» Relativement plus illuminé, la moitié des tubes fluorescents au-dessus d'eux avait lâché et bon nombre de carreaux étaient tombés du mur, découvrant une couche de terre noire essuintante. Le bafouilleux s'assit sur un nœud confus de pistes mêlées et les contempla d'un air de dire
« C'est ça que vous cherchiez ?»« Ouais, »
fit-elle visiblement soulagée.
« Ok, regarde, c'est comme je t'ai dit. »
Elle lui indiqua une porte affublée d'un écriteau. « Ford Theater, 1865. Venez assister à l'assassinat de Lincoln. » À côté, sous verre, on voyait une affiche pour la pièce « Our American Cousin » qui avait l'air d'avoir été imprimée la veille.
« Ce qu'on cherche est juste un peu plus loin. On tourne deux fois à gauche et une fois à droite, si je me rappelle bien. » De toute manière, je reconnaîtrai quand j'y serai. »
Pendant tout le périple, Roland se montra d'une grande patience. Il avait un mauvais pressentiment, mais qu'il ne partagea pas avec Susanna. celui que le labyrinthe de couloirs et de passages était peut-être fluctuant, exactement comme l'étaient les points cardinaux dans ce qu'il considérait déjà comme le monde du dessus. Si tel était le cas, ils étaient dans de sales draps. Il faisait chaud là-dessous, et bientôt ils se mirent tous les deux à transpirer abondamment, ôter halter avec régularité, comme un petit moteur rauque, mais suivait le pistolero à bon rythme, vissé à son talon gauche. Il n'y avait pas de poussière par terre, et les traces qu'ils avaient vues plus tôt avaient disparu. Derrière les portes, les bruits se faisaient plus puissants, et tandis qu'ils en passaient une, quelque chose de l'autre côté frappa avec une telle force que le panneau trembla dans son chambranle. Othé lâcha un aboiement, aplatissant les oreilles en arrière sur le crâne, et Susanna ne put retenir un petit cri.
« Tout doux, » dit Rolante, « ça ne peut pas traverser. Aucun d'eux ne peut traverser. »«
Tu es certain de ça ?»«
Oui, » affirma le pistolero sur un ton ferme. Il n'en était pas certain du tout. Il lui vint une expression dédiée.
« Les jeux sont faits, rien ne va plus. »
Ils contournèrent les flaques, veillant bien à ne pas même toucher celles qui diffusaient une lueur qui pouvait être des radiations ou de la lumière sorcière. Ils dépassèrent un tuyau brisé qui laissait échapper un panache mou de vapeur verte, et Susanna suggéra qu'ils retiennent leur respiration jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée, ce que Rolante considéra comme une excellente idée. 30 ou 40 mètres plus loin, elle lui demanda de s'arrêter.
« Je ne sais pas, Rolante, »
dit-elle. Et il entendit dans sa voix la lutte pour ne pas céder à la panique.
« J'ai cru qu'on avait rattrapé notre ombre quand j'ai vu la porte de Lincoln, mais maintenant, là... »
Sa voix se mit à trembler et il la vit prendre une grande inspiration, luttant pour ne pas perdre le contrôle.
« Là, tout a l'air différent. » Et ces bruits qui vous martèlent le cerveau. »
Il voyait bien ce qu'elle voulait dire. À leur gauche se dressait une porte vierge qui s'était bizarrement penchée dans ses gonds, et de l'espace qui apparaissait au-dessus s'échappait la mélodie atonale du carillon du Vahadash. Cet air à la fois terrible et fascinant. Accompagnant le carillon, ils sentirent comme une haleine fétide. Rolante avait l'impression que Susanna était sur le point de suggérer qu'il fasse demi-tour, tant qu'il était encore temps, peut-être même qu'il reconsidère complètement cette histoire de passage sous le château. Et alors il dit
« Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. C'est un peu plus éclairé en tout cas. »
Alors qu'ils atteignaient une intersection depuis laquelle passage et couloir carrelés rayonnaient en étoiles dans toutes les directions, il sentit la jeune femme se tortiller contre lui et se redresser.
« Là !»
s'écria-t-elle.
« On l'a pris, celui-là. On est passé par là, Rolante. Je m'en souviens. »
Une partie du plafond s'était effondrée au milieu de l'intersection, créant un véritable chaos de carreaux cassés en bataille, de verres brisés, de câbles et de fils, et de bonnes vieilles poussières. Le long de ce chantier couraient des rails.
« Là, en bas, droit devant, Ted a dit, je crois que c'est celle qu'on appelait la rue principale, et Dinky a dit que c'était ce qui lui semblait à lui aussi. » Danny Rostov a dit qu'il y a bien bien long, du temps où le roi cramoisi faisait son petit manège pour plonger tonne foudre dans les ténèbres, tout un groupe a utilisé cette voie-là pour s'échapper. Sauf qu'ils ont laissé derrière eux une partie de leur pensée. Je lui ai demandé quelle sensation ça lui donnait, et elle m'a répondu que c'était un peu comme voir les dépôts de mousse sale au fond de la baignoire, après avoir vidé l'eau savonneuse. Pas agréable. Elle a dit simplement. Fred a fait une marque et on est retourné jusqu'à l'infirmerie. Je ne voudrais pas me vanter et vendre la peau de l'ours, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
Et il l'était en effet, du moins pour le moment. À 80 pas après l'intersection, ils débouchèrent sur une ouverture, sous une arche. Au-delà, on apercevait des boules blanches étincelantes pendant du plafond selon une courbe descendante. Au mur, tracée en quatre gros traits à la craie, déjà en partie effacée par l'humidité qui suintait à travers les carreaux, ils lurent le dernier message laissé par les briseurs affranchis. Une flèche. Ils se reposèrent là pendant un moment, à piocher des poignées de raisins secs dans une boîte de conserve et à les manger. Même Ôté en grignota quelques-uns. Bien qu'à sa tête, il parut assez clair que ce n'était pas là son mets préféré. Quand ils se sentirent tous rassasiés et que Roland eut rangé la boîte dans le sac en cuir qu'il avait trouvé en chemin, il demanda à la jeune femme
« Tu te sens prête à repartir ?»«
Oui, tout de suite. Je pense, avant que je perde mon... »«
Mon Dieu, Roland, qu'est-ce que c'était que ça ?»
De derrière eux, sans doute l'un des passages partant de l'intersection en chantier, un coup sourd les avait fait sursauter. Un son, avec quelque chose de liquide, comme si un géant en bottes en caoutchouc rempli d'eau venait de faire un pas.
« Je ne sais pas, » admit Roland.
Susanna jeta un regard inquiet derrière elle, mais ne vit que des ombres. Mouvantes pour certaines, mais c'était peut-être dû au clignotement de certaines des lampes. Peut-être.
« Tu sais, » suggéra-t-elle, « je crois que ça pourrait être une bonne idée d'évacuer les lieux aussi vite que possible. »«
Je pense que tu as raison, »
dit-il en s'appuyant sur son genou et ses doigts écartés posés au sol, comme un coureur prêt à bondir des starting blocks. Lorsqu'elle fut de nouveau en position dans le harnais, il se releva et passa devant la flèche au mur, à un rythme proche de la course. 9. Ils avançaient ainsi au pas de course depuis environ 15 minutes lorsqu'ils tombèrent sur un squelette vêtu des lambeaux d'un uniforme militaire pourrissant. Il lui restait une bande de cuir chevelu sur la tête, duquel sortaient des touffes de cheveux noirs et mous. La mâchoire ouverte dessinait un rictus, comme pour leur souhaiter la bienvenue dans le monde souterrain. Près du bassin nu du squelette gisait au sol un anneau qui avait fini par glisser de l'un des doigts de la main droite en décomposition. Susanna demanda à Roland si elle pouvait y jeter un œil. Il ramassa le bijou et le lui tendit. Elle l'examina juste le temps de confirmer son intuition, puis le jeta par terre. Il émit un petit tintement métallique, puis ils n'entendirent plus que le compte-goutte de l'eau qui ruisselait et le carillon du Vahadash, affaibli maintenant, mais incessant.
« C'est ce que je pensais, » dit-elle.
« Quoi donc ? »
demanda-t-il en reprenant leur chemin.
« Ce type est un orignal. Mon père avait la même fichue bague. »«
Un orignal ? Je ne comprends pas.
C'est une fraternité universitaire. » Une sorte de catette de joyeux camarades. Mais qu'est-ce qu'un orignal pourrait bien faire dans les parages? Un pèlerin encore, je pourrais comprendre.
Et elle partit d'un rire un tantinet hystérique. Les ampoules accrochées au plafond étaient remplies d'un gaz brillant qui palpitait sur un rythme défini mais non régulier. Susanna savait qu'il y avait quelque chose à comprendre, ce qu'elle fit au bout d'un temps. Tant que Roland se pressait, le rythme de pulsation était rapide. Lorsqu'il ralentissait, sans s'arrêter vraiment, mais dans le but d'économiser son énergie, le battement dans les globes se faisait lui aussi plus lent. Elle ne croyait pas vraiment qu'il réagissait au rythme cardiaque du pistolero, ni au sien à elle, mais il y avait un lien. Si elle avait connu le terme biorhythme, c'est celui qu'elle aurait employé. À une cinquantaine de mètres du point où il se trouvait à un moment M, la rue principale était toujours plongée dans le noir. Puis, une par une, les lampes s'allumaient à leur approche. Le phénomène avait quelque chose de fascinant. Elle se retourna une seule fois car elle ne voulait pas déséquilibrer la course de Roland et constata que oui. Les lumières s'éteignaient bien à tour de rôle dès qu'ils avaient parcouru quelques 50 mètres. Ces projecteurs-ci étaient beaucoup plus éclatants que les globes clignotants à l'entrée de la rue principale et elle les soupçonnait de fonctionner à une énergie différente. Une énergie qui, comme tout le reste ou presque dans ce monde, était en train de péricliter.
Puis elle remarqua que l'un des globes ne s'allumait pas. Lorsqu'ils s'en rapprochèrent et passèrent à côté, elle put voir qu'il n'était pas complètement éteint. Un faible cœur incandescent se consumait toujours au centre, se convulsant au rythme de leurs deux corps et de leurs deux cerveaux. Ce qui lui rappela ses enseignes au néon, quand une lettre ou deux tombent en panne et transforment sucre candy en suscandy. Environ 25 mètres plus loin, ils croisèrent une nouvelle ampoule hors service, puis deux consécutives.
« À mon avis, on risque de se retrouver dans le noir d'ici peu de temps, »
dit-elle d'un ton morose.
« Je sais, » acquiesça Roland, qui commençait à se sentir un chouïa essoufflé.
L'air était toujours humide, et un fond froid remplaçait progressivement la chaleur. Il y avait des affiches au mur, pour la plupart déjà trop pourrie pour être encore lisible. Sur un pan sec, elle en vit une représentant un gladiateur qui venait juste de perdre son combat contre un tigre dans l'arène. Le gros félin arrachait avec délectation un chapelet de viscères du ventre ouvert de l'homme sous les yeux de la foule en liesse. Une légende apparaissait en dessous, déclinée en une demi-douzaine de langues différentes. En français, en deuxième position, elle lut « Visitez Circus Maximus, vous allez adorer. »
« Touché sur Roland, » chuchota Susanna, « Dieu tout-puissant, mais qu'étaient ces gens ?»
Roland ne souffla mot, bien qu'il sût la réponse. C'était tout simplement des Folken devenus fous. 10. À intervalle de 100 mètres environ, de petits escaliers, dont le plus long devait compter 10 marches, les emmenèrent progressivement de plus en plus profond dans les entrailles de la terre. Lorsqu'ils eurent parcouru ce que Susanna estima être 300 mètres, ils arrivèrent près d'une sorte de barrière qui s'était fait arracher, sans doute par un véhicule quelconque, et réduire en miettes. D'autres squelettes apparurent, tellement nombreux que Roland dut en écraser certains pour se frayer un chemin. Les os ne craquèrent pas sous ses bottes, mais produisirent un « pop » visqueux encore plus répugnant. L'odeur qui s'en échappait était doucereuse et humide. Au-dessus de ces cadavres, les carreaux avaient sauté et ceux encore accrochés au mur étaient criblés d'impacts de balles. Une fusillade, donc. Susanna s'apprêtait à faire un commentaire, mais c'est alors qu'elle fut interrompue par le martèlement sourd qu'ils avaient entendu plus tôt. Elle eut l'impression qu'il était un peu plus fort cette fois-ci, un peu plus proche. Elle jeta de nouveau un regard derrière elle et ne vit rien. 50 mètres derrière eux, les lumières continuaient de s'éteindre une à une.
« Je ne voudrais pas te paraître paranoïaque, Roland, mais je crois bien qu'on est suivi. »«
Je sais qu'on est suivi. »«
Tu veux que je tire une balle ou deux ? Ou que je lance un plat ? Rien que le sifflement peut filer la chair de poule. »«
Non. »«
Pourquoi ?
Cette chose ne sait peut-être pas qui nous sommes. Si tu tires, elle le saura. »
Il fallut à Susanna un petit moment pour comprendre ce qu'il voulait réellement dire. Il n'était pas sûr que des balles ou un oriza arrêteraient ce qui se trouvait derrière eux. Ou pire encore, il était sûr du contraire. Lorsqu'elle reprit la parole, elle fit tout son possible pour avoir l'air calme et eut l'impression de s'en sortir pas trop mal.
C'est sorti de cette crevasse, tu crois ?
C'est possible, dit Roland. Ou peut-être que ça s'est échappé des ténèbres Vahadash. Maintenant, chute.
Le pistolero accéléra la cadence, se mettant d'abord à trottiner, puis vraiment à courir pour de bon. Elle était ébahie par sa mobilité, à présent que sa douleur à la hanche avait disparu. Mais elle entendait sa respiration forte et sentait sa poitrine et son dos se soulever. Des inspirations brèves et rauques suivies d'expirations rudes qui ressemblaient à des grognements de contrariété. Elle aurait donné n'importe quoi pour pouvoir courir à côté de lui, sur ses propres jambes, ses jambes vigoureuses que lui avait volées Jack Mort. Les globes au-dessus d'eux palpitaient plus rapidement. Et leurs pulsations étaient plus flagrantes à présent que les ampoules se raréfiaient. Entre deux lampes, leurs ombres mêlées se projetaient loin en avant, puis se raccourcissaient petit à petit à mesure qu'ils approchaient de la lumière suivante. L'air était plus frais, le revêtement en céramique au sol de plus en plus inégal. Par endroits, il avait éclaté et des tessons gisaient éparpillés, jonchant le parcours de pièges pour le visiteur non averti. Othé les évitait sans peine, et jusqu'ici Roland aussi était parvenu. Elle allait lui faire remarquer qu'il n'avait plus entendu leur espion depuis un moment, lorsque derrière eux quelque chose poussa un gros soupir de surprise. Elle sentit l'air autour d'elle faire marche arrière. Elle sentit ses boucles serrées se dresser sur son crâne, tandis que l'air se faisait aspirer. Puis résonna un gigantesque bruit baveux qui lui donna envie de hurler. Quelle que fût cette chose qui les suivait, elle était grosse. Non, énorme. 11. Ils déboulèrent à bride abattue dans un autre de ces petits escaliers. 40 mètres plus loin, trois derniers globes dardaient leur éclat incertain, puis c'était la pénombre. Les éclats de carreaux et le sol inégal et pourrissant se mêlaient en un trou noir tellement profond qu'il avait l'air composé d'une substance physique. De gros nuages de feutre noir entassés en balles. Ils allaient s'y engouffrer en courant, se dit-elle. Et pendant un temps, leur élan les porterait encore un peu. Puis cette matière les englurait et les tirerait en arrière comme un ressort et ils se retrouveraient nez à nez avec la créature. Elle l'apercevrait, cette chose si monstrueuse et inhumaine que son esprit ne saurait la reconnaître, et ce serait peut-être une bénédiction. Et alors elle bondirait et... Roland se jeta dans les ténèbres sans ralentir. Et bien entendu, ils ne furent pas aspirés en arrière. Il y eut d'abord un peu de lumière, une vague lueur derrière eux et les derniers feux des globes au-dessus de leur tête. Certains luttaient pour ne pas s'éteindre à tout jamais. Juste assez de lumière pour apercevoir un autre escalier dont le sommet était encombré de squelettes tombant en ruine, vêtus de lambeaux de tissu rouge. Roland descendit les marches aussi vite que possible, 9 marches et sans s'arrêter. Othé courait à ses pieds, ou plutôt dansait presque, les oreilles aplaties en arrière et la fourrure ondulant comme une onde. Puis ils se retrouvèrent dans le noir total. «
Aboie, Othé, pour qu'on ne se rentre pas dedans !»
lança Roland.
« Aboie !»
Othé obéit. 30 secondes plus tard, le pistolero le lui ordonna de nouveau, et Othé aboya encore.
« Roland, et si on débouche sur un autre escalier ?»«
C'est le cas !» dit-il. Et au bout de 90 secondes, l'escalier apparut.
Elle le sentit trébucher et basculer en avant. Les muscles de ses épaules tressautèrent tandis qu'il projetait les mains devant lui. Pourtant, ils ne tombèrent pas. Susanna s'émerveilla une fois encore de ses réflexes. Ses bottes bondissaient sans la moindre hésitation. 12 marches, cette fois-ci? 14? Ils arrivèrent sur le sol plat du passage avant qu'elle ait pu recompter mentalement. Elle savait à présent qu'il était capable de négocier les descentes d'escalier même dans le noir, en courant comme un dératé. Mais s'il se prenait les pieds dans un trou? Dieu savait que c'était possible, vu l'état de décomposition avancée du sol. Ou bien s'il percutait un tas de squelettes barrant le passage en haut d'un de ces petits escaliers. Elle essaya de ne pas s'imaginer Roland en train de faire le saut de l'ange dans les ténèbres, comme un plongeur mutilé, mais l'image s'imposa d'elle-même. Combien de leurs os à eux seraient fracassés par la chute en arrivant en bas?
« Merde, bébé, choisis un chiffre !»
aurait pu dire Eddie. Toute cette cavalcade, c'était de la folie pure. Mais il n'avait pas le choix. Elle entendait de plus en plus distinctement cette chose dans leur dos, plus seulement son souffle baveux, mais aussi le crissement du papier de verre qu'on gratte quand la chose se frottait aux parois carrelées du couloir. De temps à autre, elle percevait aussi le bruit d'un carreau arraché au mur. Il lui était impossible de ne pas associer des images à ces sons, et ce que Susanna commença à visualiser,
C'est un ver noir et géant dont le corps articulé remplissait tout le diamètre du couloir, déracinant parfois un pan de céramique branlant et l'écrasant sous son ventre gélatineux, tandis qu'il se précipitait, affamé, réduisant à vue d'œil l'écart entre lui et eux. Le réduisant même de plus en plus vite. Susanna croyait savoir pourquoi. Il courait auparavant dans un îlot de lumière mouvant. Et quelle que fût cette chose lancée à leur poursuite, elle n'aimait pas la lumière. Elle repensa à la lampe torche que Roland avait glissée dans leur guna, mais sans pile neuve, elle leur serait pour ainsi dire inutile. 20 secondes après qu'elle aurait poussé le petit bouton, cette fichue lampe serait morte. Sauf si... Attendez une minute. Son manche. Son long manche. Susanna fouilla dans le sac en cuir qui rebondissait sur la hanche de Roland. Trouva des boîtes de conserve, mais pas les boîtes qu'elle cherchait. Elle trouva enfin ce qu'elle voulait, la reconnaissant à la gouttière circulaire qui courait juste sous le couvercle. Elle n'avait pas le temps de se demander pourquoi ce contact lui parut immédiatement tellement familier. Déta avait ses secrets et l'un d'eux avait probablement à voir avec le méta. Elle leva la boîte à hauteur de ses narines pour en vérifier l'odeur, puis se cogna l'arête du nez lorsque Roland trébucha sur un tesson de céramique, ou peut-être un autre squelette, et dut lutter un peu pour retrouver son équilibre. Cette fois-ci, il remporta la bataille, mais il finirait bien par perdre la guerre, et cette chose derrière serait sans doute sur eux avant qu'ils puissent se relever. Susanna sentit du sang chaud lui dégouliner sur le visage, et la créature, en reniflant peut-être l'odeur, émit un puissant cri humide. Susanna pensa à un alligator géant dans un marécage de Floride, sortant de la vase sa tête couverte d'écailles pour bâiller à la lune. Et il était tellement près.
« Oh mon Dieu, donnez-moi du temps !» se dit-elle. Je ne veux pas partir comme ça. Se faire abattre, c'est une chose, mais se faire dévorer vivant dans le noir...
C'en était une autre.
« Accélère !»
rugit-elle à Roland, en lui tambourinant les côtes de ses cuisses, comme un cavalier aiguillonnant à l'éperon son cheval récalcitrant. Et Dieu sait comment Roland y parvint. Sa respiration était devenue une véritable torture à l'oreille. Il n'avait jamais autant haleté, même après son comala endiablé. Si le pistolero poursuivait à ce rythme, son cœur allait exploser dans sa poitrine, mais...
« Plus vite, Tex ! Lâche tout, nom de Dieu ! Je vais peut-être nous sortir un lapin de mon chapeau, mais en attendant, tu as intérêt à me donner tout ce que tu as, bon sang !»
Et là, dans les ténèbres sous le château Discordia, Roland donna tout ce qu'il avait.